Mais revenons justement à ce sujet très important, le décès de Mme Hélène Rowley-Hutt Duceppe, pardon, la mère de Gilles Duceppe, qui est survenue le 20 janvier dernier à Montréal, aurait pu être évitée, selon le coroner Jehan Kamel, qui a remis son rapport d'enquête ce matin. Philippe Bonneville est journaliste à Cogeco Nouvelles, il était sur place. Bonjour Philippe.
Bonjour Louis.
Alors, des conclusions épouvantables. Le décès d'abord aurait pu être évité, mais on apprend dans le rapport que Madame Hutt Duceppe est restée prisonnière à l'extérieur à moins 35 pendant plus de 6 heures.
On comprend maintenant, Louis, avec les explications divulguées, fournies par la coroner ce matin, on comprend dans quelles circonstances vraiment affreuses est décédée Madame Duceppe en janvier dernier. Écoutez, c'est une femme de 93 ans qui était parfaitement autonome, en très bonne santé, aucun problème de santé dans son cas. Donc, si on se replace en janvier dernier, on est le 20 janvier, il est 4h55 du matin, c'est la tempête ici à Montréal, tempête hivernale, il fait froid, il neige, il vente. Et là, la mère de Gilles Duceppe a dû rapidement quitter son appartement en pleine nuit en raison d'une alerte générale d'incendie. Ouais. Mais une alerte générale, Louis, déclenchée par erreur, par surcroît, imagine. Donc, elle a suivi, elle, toutes les procédures en sortant vraiment à l'extérieur rapidement. Elle a emprunté une sortie de secours. Mais une fois rendue à l'extérieur, elle se trouvait dans une sorte de cour intérieure, si on veut, près de cette résidence pour personnes âgées, Luxe Gouverneur, située sur la rue Sherbrooke, tout près des fameuses habitations olympiques. Là. Donc, c'est immense. Là, on parle de trois immenses tours. Il y a une cour intérieure. Elle se retrouve donc coincée à l'extérieur. La porte se referme derrière elle et elle se retrouve donc embarrée littéralement. Et personne, Louis, n'est venu la chercher pour lui permettre de revenir à l'intérieur. Pas un pompier, personne non plus de l'équipe qui s'occupe des résidents dans cette résidence-là. Et là, pendant 6 heures, tu l'as mentionné, là, plus de 6 heures, imaginez, alors qu'il neigeait, qu'il ventait, que la température ressentie était de moins 35 degrés, elle a tenté littéralement de survivre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une caméra de surveillance, exact, Louis, qui filmait tout ça. C'était des images qui étaient retransmises au bureau de la sécurité de l'endroit. Personne n'a regardé ces images-là où on voyait, et la coroner l'a dit, elle l'a visionné les 6 heures. Là, et on voit très bien cette dame de 93 ans cognée dans la porte, tenter d'escalader un monticule de neige. Elle a tenté de s'en sortir et je te laisse immédiatement entendre la coroner Jehan Kamel. Tu vas voir, là, elle va vraiment expliquer comment ça s'est passé durant ces heures-là.
Nous voyons clairement sur la captation de la vidéosurveillance que Mme Duceppe tente de se protéger du froid. Elle s'éloigne de la porte, cherchant sans doute une issue pour quitter la cour intérieure où elle se trouve, mais rebrousse chemin vers la porte pour se protéger du vent. Au fil des minutes et des heures, elle a de plus en plus de difficultés à bouger. Elle se couche au sol. À 11h02, 6 heures après le déclenchement de l'alarme, elle cesse de bouger. Elle est trouvée par un membre du personnel vers 11h40, mais il est trop tard. Madame Duceppe est décédée d'hypothermie. Malheureusement, ce sont plusieurs lacunes dans un processus destiné à la protéger qui ont finalement entraîné son décès. Ce que je retiens surtout, c'est qu'elle s'est battue jusqu'à la fin, cette dame-là. Ça, elle avait une... Moi, j'ai dit à mes collègues, elle a une force incroyable pour avoir tenu aussi longtemps en vie à attendre du secours.
Alors, c'est un récit épouvantable, Philippe. Et on apprend aussi, il y a une autre chose qui m'a interpellé un peu. Il y avait un système installé dans la chambre qui était un détecteur de non-mouvement. Et ce système-là n'a même pas détecté le fait que Madame Duceppe n'était plus dans sa chambre.
Exactement. À chaque fois qu'un résident ne bougeait pas durant une période de 12 heures, ce détecteur-là envoyait un message justement aux dirigeants de cette résidence pour personnes âgées. Mais comme elle a mis son manteau le matin, dans pleine nuit pour sortir, il semble que ces capteurs-là, ils vont avec la chaleur du corps et le fait d'avoir un manteau a fait en sorte que le détecteur n'a pas fonctionné correctement. Donc, on le voit là, c'est une série d'erreurs qui ont été fatales. Et parmi les recommandations de la coroner faite ce matin, la principale, c'est de munir les résidences d'un système d'interphone avec sonnette aux portes d'urgence, aux sorties d'urgence. Parce que là, cette dame-là de 93 ans était coincée à l'extérieur. Oui. Elle cognait, personne ne lui répondait. Mais s'il y avait une sonnette et un système d'interphone, eh bien, quelqu'un aurait certainement pu rapidement aller lui porter secours.
Merci, Philippe, de ce récit.
T'en prie.
Au revoir. On va maintenant parler avec Maître Marc-André Cloutier, qui est l'avocat de la famille Duceppe. Vous comprendrez que la famille, aujourd'hui, on a bien sûr fait des demandes pour parler, entre autres, à Gilles Duceppe, mais on peut comprendre dans les circonstances qu'ils n'ont pas nécessairement envie de parler, là. Ils sont un peu en colère, Maître Cloutier, aujourd'hui, n'est-ce pas?
Oui, ben oui, effectivement. Bonjour, M. Lacroix. Ben, c'est une situation qui est complexe, puis qui suscite toutes sortes de réactions, puis toutes sortes d'émotions dans la famille. Évidemment, perdre sa mère, déjà, c'est une épreuve difficile. La perdre dans des circonstances comme celle-là, ben, ça ajoute la colère, l'incompréhension, le sentiment d'abandon. Puis évidemment, ben, c'est des émotions qui s'additionnent.
Oui, surtout que quand on lit le rapport, là, puis Madame la coroner a fait, Madame Kamel a fait vraiment un récit très, très précis de tout ce qui s'est passé, on se rend compte que il y a un paquet d'éléments dans l'histoire qui auraient pu permettre d'éviter ce drame-là.
Ben, nous, on en a identifié 5, là, plus particulièrement, puis qu'on met en évidence. Et c'est assez choquant de constater ça. D'abord, il est clair pour nous qu'il y a une problématique de formation du personnel sur place. Là, c'est des erreurs humaines qui auraient pu être évitées, nous pensons, avec une meilleure formation. Alors, ce sont des gens qui ont une responsabilité importante, mais peu de formation. Ensuite, ben, le deuxième élément, c'est, vous savez, dans le rapport, la coroner fait état, Mme Rowley est sortie par une porte qui était tout près de son appartement qu'elle a choisi spécifiquement pour des raisons de sécurité. D'ailleurs, ça fait partie des représentations de la résidence. Donc, tout près de la porte de secours, elle sort par cette porte-là et ça déclenche une alarme. Et là, à un moment donné, il y a un employé de la résidence qui vient refermer la porte, désarmer l'alarme, mais ne vérifie pas à l'extérieur s'il y a quelqu'un juste de l'autre côté de la porte, qui était le cas.
C'est important parce que elle sort par cette porte-là qui est fermée là, et qui, quand elle ouvre la porte, il y a une alarme qui se déclenche. L'alarme continue, elle est à l'extérieur, on referme la porte, on arrête l'alarme, puis il n'y a personne qui va voir pourquoi cette porte-là s'est déclenchée, pourquoi l'alarme s'est déclenchée.
Il semble que personne ne s'est posé la question pourquoi donc cette porte-là sonne, et elle a sonné de 5h le matin jusqu'à 8h, 8h30 là, sans arrêt, et on l'a finalement refermé sans vérifier derrière. Autre élément, les pompiers ont demandé aux gens de la résidence lorsqu'ils sont arrivés sur place, avez-vous fait le décompte des résidents pour vous assurer que tout le monde est dans son appartement? Il semble que les gens de la résidence aient répondu par l'affirmative, mais que ce ne soit pas le cas, donc que le dénombrement des gens n'ait pas été fait.
Mais s'il avait été fait, ils seraient rendus compte que Mme Rowley n'était pas là?
Ben forcément. Alors, et là, ce qui est particulier, c'est que les pompiers ont reçu une réponse affirmative de la part du personnel. Autre élément, alors on voit très bien Mme Rowley sur les caméras de surveillance de la résidence, et ces caméras-là sont à l'avant où il y a un employé de la résidence qui est assis et qui normalement est chargé de les regarder. Là, évidemment, ça s'est pas fait. Alors, ce sont quelques exemples là, qui font que si on avait regardé les caméras, si on avait regardé derrière la porte, si on avait formé le personnel, si on avait commencé à chercher Mme Rowley avant l'arrivée de la famille, alors ce ne serait pas arrivé, puis on serait pas dans cette situation-là aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est clair, là, puis pour la famille, c'est clair que cet événement-là résulte d'une série de gestes négligents de la résidence et des employés de la résidence. Alors, ça ajoute au drame de
qu'est-ce que va faire la famille? Parce qu'évidemment, vous l'avez dit, là, c'est une suite de négligence. Est-ce que la famille va demander réparation? Réparation chez nous, là, dans notre système juridique, judiciaire, ça veut dire une poursuite.
Bien, on est en train de regarder ça. Tout est envisagé actuellement. Vous savez, la famille Duceppe est une famille importante au Québec, une famille qui porte sur ses épaules aussi le regard des autres. Et c'est clair pour eux que c'est pas une procédure ou une démarche qui a pour principal objectif le gain pécunier. Mais il est normal dans des circonstances comme celle-là qu'on veuille obtenir un dédommagement qui pallie aux préjudices qu'eux ont vécu, donc aux conséquences que ça a dans leur vie à eux, mais aussi pour et au nom de leur mère, les conséquences que ça a eu pour elle qui a vécu des moments de fin de vie atroces. Alors, tout est sur la table et on est en train de finaliser nos démarches. Donc, il y a ça, d'une part, qui s'en vient possiblement. Puis, de l'autre côté, bien, la famille a souhaité ce matin interpeller la ministre Blais, ministre des Aînés, entre autres, pour mettre en place des modifications, notamment une certification pour les résidences qui doit selon nous, s'accompagner d'une vérification puis d'un protocole à mettre en place pour s'assurer que ce genre d'événement-là ne se produise pas, mais aussi une modification au code du bâtiment, ne serait-ce que pour rendre obligatoire le fait qu'il y a un interphone avec sonnette à chacune des portes de sortie qui soit reliée à un panneau indicateur. Et ça, c'est une revendication très claire de la famille. On espère que la ministre va bouger pour modifier ce genre de en fait les codes de, le code du bâtiment qui encadre ces résidences là parce qu'évidemment il y a de plus en plus de résidences qui sont visées par ce genre d'incident là évidemment les résidences sont de plus en plus nombreuses. Alors c'est une question de société que la famille Duceppe souhaite adresser.
Parce qu'on a eu, on voulait avoir le commentaire de Mme Blais là-dessus, la ministre responsable des aînés aujourd'hui. Finalement, on a décliné notre demande, mais on nous a quand même envoyé une déclaration de la ministre. Je vous la lis, vous me direz si ça fait votre affaire. Elle dit « Nous prenons acte du rapport de la coroner Jeanne Kamel de façon sérieuse et approfondie, même si le rapport ne comporte aucune recommandation à l'égard du ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous appuyons les recommandations de la coroner afin d'éviter la récurrence d'un tel événement malheureux. » Or, la coroner fait pas de recommandations à l'égard des autres résidences.
Non, parce qu'évidemment, elle s'est penchée sur les circonstances de ce dossier précis-là. Mais évidemment, pour la famille, il est clair que faut utiliser ce rapport-là et cette situation-là pour améliorer le sort et la sécurité de l'ensemble des résidences. Ne serait-ce que d'avoir un bouton sonnette sur chacune des portes extérieures, ça nous semble être le minimum, puis avoir une certification qui assure la formation du personnel dans des situations comme celle-là, c'est essentiel.
Ouais.
Alors bon, ce sont des paroles appréciées de la ministre.
Mais faudrait.
La famille souhaite des actions.
Des actions plus larges. Mais Maître Cloutier, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Maître Marc-André Cloutier, l'avocat de la famille Duceppe. Est-ce que vous considérez, vous, que vos parents plus âgés, qui sont peut-être dans ce type de résidence-là ou en CHSLD, est-ce que vous considérez qu'ils sont en sécurité? Je vous pose la question après la pause, parce que le rapport, quand même, là, Luxe Gouverneur, c'était une résidence de luxe, là. C'est une résidence où les gens paient pour aller là. C'est une résidence privée, des gens semi-autonomes et qui, quand même, sont censés être en sécurité. Et là, ben, on se rend compte que le système a failli, puis pas à peu près, à plusieurs égards d'ailleurs. Alors, 790-9850, 1-877-790-9850, vous appelez de l'extérieur. On va à la pause, puis on prend vos appels tout de suite après. Restez là. Il est midi 23 minutes. Bon, je vous pose la question suivante à la suite de l'histoire de Mme Rowley Duceppe qui est décédée malheureusement d'hypothermie à l'extérieur d'une résidence. Est-ce que vous considérez que vos aînés sont en sécurité là où ils sont peut-être en CHSLD ou encore en résidence privée? Alors, si vous voulez donner votre point de vue là-dessus, 790-9850, le 1-877-790-9850. On va commencer immédiatement avec Michel. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Alors, comment vous avez réagi à cette histoire épouvantable?
Nous sommes une famille de 7 enfants. On n'était pas d'accord pour le faire une autopsie parce que c'était des amis qui ont la résidence dans le bout de Granby.
Oui.
Il s'est levé en pleine nuit. Mon père s'est levé en pleine nuit pour aller aux toilettes. Puis, ils l'ont retrouvé à 3 heures du matin. Il était assommé, il était mort. Il était entre
la maison. Ben,
voyons
donc. Oui. Il était tombé?
Ah, il était tombé. Ouais. Fait que c'est bien plate parce qu'il aurait dû avoir plus de surveillance que ça en pleine nuit.
Oui.
Il y avait même ses lumières dans la chambre, comme on avait dit, que c'est levé. T'as aux toilettes, il est tombé. Peut-être une chute de pression. On n'a pas fait faire d'autopsie pour faire de trouble à personne. On aurait dû d'instance. Hein.
Oui. Et ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à la résidence?
Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas donné d'explication. Plus il est tombé, ils vont le retrouver. Mais les ambulanciers dans le rapport de l'hôpital, il était mort.
Mais est-ce que c'était une résidence privée? C'est une résidence privée?
C'est une résidence privée, oui.
Ouais.
Ben, je ne veux pas nommer le nom pour pas de problème.
Non, je comprends. Mais est-ce qu'ils vous ont offert au moins leurs condoléances?
Même pas. Même pas la famille. Même pas envoyer un bouquet de fleurs disant comme quoi nos sympathies. Que... Non, ils n'ont rien fait, là.
Ça semble généralisé parce que ce qu'on nous disait tout à l'heure, c'est que la résidence Luxe Gouverneur, là où est décédée la mère de Gilles Duceppe, a jamais communiqué avec la famille depuis les événements. Alors, on dirait que c'est généralisé. Pas sûr qu'ils n'ont plus, qu'ils étaient très, très fiers de leur gestion de la patente, là, mais.
Ben, moi, chez nous, il y a une de mes soeurs qui voulait faire une action parce que c'est moi qui est allé identifier mon père, puis c'était pas à moi à faire ça, de toute façon. Je suis allé, mais on m'a demandé si je voulais faire une autopsie. Là, je me disais, bon, il fallait chuter le corps, pourquoi? En fin de compte, on me disait, là, on tient ça mort, mais on aurait dû pas tenir ça mort. Mmh. C'est lui qui est mort.
Merci, Michel.
Merci, bonne journée.
Toute notre sympathie. Bonjour, Simon, maintenant.
Oui, bonjour, ça va bien, M. Lacroix?
Ça va bien, vous?
Pas si mal, pas si mal. Au moins, il fait beau, est-ce qu'on va entendre ça?
Ben oui, c'est ça. Alors, vous réagissez comment, vous?
Ben, comment je réagis? C'est que mes parents n'ont jamais été dans une résidence ou dans le CHSLD, mais ouais. J'ai travaillé dans une résidence privée. OK?
OK.
Puis j'étais cédulé de nuit. Bon. Ceci dit, il y avait une préposée aux bénéficiaires, une infirmière, puis un concierge, en l'occurrence, moi-même.
Mm-hmm.
On était trois pour prendre soin de 800, pas patients, mais 800 personnes âgées dans un même building. Imaginez-vous si le feu aurait pogné là-dedans, vous. J'ai donné ma démission.
Ah oui, pour ça?
Oh, pour ça, oui. Si jamais il y a de quoi qui arrive, je ne veux pas être tenu responsable de ça.
OK.
Ce qui est arrivé à la dame, bon, mes sympathies à la famille Duceppe, là, ce qui est arrivé à la dame, Mme Duceppe, là, c'est tout simplement épouvantable, puis moi, j'appelle ça de la négligence criminelle. C'est de la négligence criminelle pour moi.
Mais ça, c'est le tribunal qui va le décider si jamais la famille décide de poursuivre, là, mais le constat, en fait, que fait la coroner est quand même assez accablant, là.
Ben, c'est quand même assez clair, hein?
Ouais.
C'est la moindre chose de mettre un bouton à sa nette à côté de la porte. Tu sais, le gros bon sens, tu sais.
Ouais.
Puis il faut un coroner, il faut une mort pour en arriver là.
Ah, mais ça, au Québec, on est de même, Simon.
Ouais, on réagit après coup.
C'est ça. Tant qu'il n'y a pas de mort, c'est pas grave, mais aussitôt qu'il y a des morts, là, on réagit. Mais
c'est ça, là, on réagit.
Ouais, ouais, puis souvent, ça prend beaucoup de morts, tu sais.
Ouais, c'est ça, avant de réagir, ouais. Non, je vous dis, c'est épouvantable. Moi, à toute fois que j'entends parler de cette histoire-là, là, je me pogne les cheveux, là, je suis rendu chaud, moi, là. Alors,
merci.
Je trouve ça aberrant, ça n'a pas de sens.
Merci, Simon, de votre témoignage. Au revoir. On va parler à Carole. Bonjour, Carole.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous avez vos parents ou...
Oui, mais ça me met un peu mal à l'œil. Moi, c'est arrivé, justement, j'étais dans une résidence qu'on avait placée.
Mm-hmm.
Et finalement, ça a l'air qu'elle avait pogné une bronchite. Là, j'étais allé à la pharmacie à un moment donné, puis ils m'ont donné des médicaments. En tout cas, là, à un moment donné, j'ai demandé à une des personnes qui était là de veiller sur elle durant la nuit pour voir si tout allait bien. Puis finalement, la seule fois qu'on a su, c'est qu'elle était montée à l'hôpital parce que durant la nuit, elle avait tombé, elle s'est ouvert un bras, elle s'est cognée la tête, elle a eu un œil au burn-out, puis ça a l'air qu'elle s'est ramassée, elle s'en allait dans le couloir, elle a déjeuné le matin, puis quand ils l'ont trouvée, qu'elle était plein de sang, il y avait du sang partout dans la chambre. Puis là, finalement, ils l'ont rentré à l'hôpital. Puis là, j'ai jamais compris parce que j'avais demandé à la demoiselle d'aller au moins jeter un coup d'œil durant la nuit pour voir comment est-ce qu'elle allait. Mais elle est décédée, elle n'est jamais revenue de cette situation-là.
Ouais. Mais c'était c'était une résidence pour personnes en perte d'autonomie?
Non.
Non?
Elle était semi-autonome.
OK. Et comment vous trouvez qu'ils avaient géré ça? Vous avez manqué d'informations, vous trouviez? Ils ont été trop lents à intervenir?
Non, ils n'ont pas rien dit. Mmh. Ils m'ont pas rien dit parce que quand on est retourné à la résidence, payer tout ce qu'on avait à payer parce que ma mère était décédée et était due pour les logements, là.
Ouais.
Ils nous ont jamais rien dit, rien de spécifique.
Wow. Merci, Carole, votre témoignage. Toute notre sympathie, au revoir. Et on va terminer avec Kevin. Bonjour, Kevin. Allez-y, on vous écoute.
Oui, en fait, ça m'a interpellé un petit peu là, les commentaires qui sont faits précédemment.
Oui.
En fait, au Québec, on a des normes RPA.
Comment c'est? On vous a perdu un petit bout, là, Kevin. Là.
Oui, est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, là, ça va mieux. Là.
Oui, parfait. Donc, au Québec, en ce moment, on a des résidences privées pour aînés qui est nommée RPA. Qui doit avoir une certification au niveau du Centre intégré des santé et services sociaux et où ce que les services incendie sont mis à la contribution pour la prévention incendie, exercice d'évacuation, procédure d'urgence. En ce moment, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que ces résidences-là ferment leurs portes par manque de moyens. Puis là, en ce moment, il y a un manque criant de place pour les gens qui sont avec soit des troubles cognitifs ou des troubles de mobilité. Puis, en fait, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est le CI3S place ces gens-là dans des OMH, sans surveillance. Ils sont en manque criant d'espace, donc ils vont en chercher partout.
Ouais.
Donc, ils ont pelleté comme un petit peu le problème dans la cour des autres. Puis, ça me surprend pas là, qu'il y ait eu un événement là, malheureux, en fait, puis là, que ça réveille les gens. Ça fait des années que les services incendies crient haut et fort là, qu'il y a une problématique.
Mais le pire dans ce cas-ci, c'est que Mme Rowley Duceppe était allée dans cette résidence-là parce que elle craignait pour sa propre sécurité, parce qu'elle était autonome, cette dame-là, à 93 ans. Là, le seul problème de santé, ou c'est même pas un problème de santé, c'est qu'elle avait un problème de surdité, puis elle avait un appareil en plus pour pallier à ce problème-là. Elle était allée dans cette résidence-là parce qu'on lui avait vendu de la sécurité en termes de comment dire, d'arguments là, pour qu'elle aille dans cette résidence-là. Et finalement, c'est tous les systèmes de sécurité qui ont failli. C'est assez paradoxal quand même.
Ben c'est sûr que c'est, on peut dire que c'est un drôle d'adon. La problématique dans ces cas-là, c'est qu'il y a un manque criant de personnel. Ouais. Il n'y a aucun support au niveau des gouvernements. Puis là, c'est rendu qu'on a des résidences privées pour aînés autonomes qui accueillent des gens non autonomes parce qu'il n'y a pas de place nulle part dans ces résidences-là. Je trouve ça déplorable et je trouve ça malheureux qu'arrive cet événement-là. Je pense que les centres intégrés de santé et services sociaux devraient se pencher un petit peu plus sur cette question-là.
Et se poser la question.
Oui, puis ils devraient avoir une mise à jour faite au niveau de cette clientèle-là.
Merci, Kevin.
Surtout, ça me fait plaisir.
Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Alors voilà, des histoires semblables, ben il y en existe d'autres, bien sûr. Le cas qu'on nous décrit aujourd'hui est particulièrement, rebutant parce que il y a plusieurs causes, mais une tragédie, c'est jamais une seule cause, c'est toujours une série d'erreurs ou une série de hasards ou de négligences qui font en sorte que ça survient. Et justement, là, ça le démontre encore une fois. Là, il y a plusieurs systèmes qui avaient failli à cette résidence-là et qui a malheureusement porté cette dame de 93 ans. On s'arrête un tout petit moment, on revient dessus d'après.